Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Et ce matin Julie, qui sont celles et ceux qui quittent encore chaque jour l'Afghanistan?
Oui, une fois partis il y a un an, les derniers vols internationaux du tarmac de l'aéroport de Kaboul dans des avions complets, mais un temps retenu, étreint, pris d'assaut par des milliers de personnes désespérées de n'avoir pu monter à bord. 38 millions d'Afghanes et d'Afghans restaient encore dans le pays sous le régime des talibans, tout juste revenus au pouvoir. Alors certes, sur ces 38 millions de personnes, toutes n'ont pas eu l'intention de partir, mais il reste que beaucoup continuent à vouloir tenter leur chance ailleurs. D'après l'Iran voisin par exemple, ce sont 5000 personnes par jour qui essayent de traverser les frontières. Un rapport d'Amnesty International publié hier documentait de très nombreux cas de mauvais traitements, mais aussi de renvois forcés illégaux dont font l'objet les exilés qui réussissent à passer en Iran ou qui essayent voire à aller jusqu'en Turquie. Bonjour Nassim Majidi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la cofondatrice et directrice de Samuel Hall, un centre de recherche basé à Kaboul qui forme des chercheurs afghans et qui soutient l'action humanitaire dans le pays. Nassim Majidi, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a beaucoup d'Afghanes et d'Afghans qui quittent le pays tous les jours? Pour aller où? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que les Nations Unies en donnent? Ou est-ce qu'on ne peut compter que sur ceux des pays voisins?
Oui, alors les chiffres manquent cruellement dans un contexte où on a besoin de chiffres pour planifier l'aide et la protection pour les Afghans. Il n'y a pas de gouvernement reconnu, donc les seuls chiffres fiables sont ceux des Nations Unies qui retiennent beaucoup d'informations, qui n'ouvrent pas vraiment un espace de dialogue. Les seuls chiffres que je peux vous citer aujourd'hui, ce sont les chiffres de l'Organisation internationale de la migration qui nous parlait en 2021 de 5 millions de sorties vers l'Iran et le Pakistan. Mais ce qui nous inquiète surtout, c'est que ces chiffres ont diminué en 2022. Donc au premier trimestre 2022, il y a moins d'Afghans qui réussissent à sortir. Et c'est vraiment une question de réussir à sortir parce que la migration a toujours été une stratégie de survie pour les Afghans. Mais ils sont aujourd'hui face à des contrôles plus stricts aux frontières du côté iranien, pakistanais, comme on en parlera aussi plus loin en Turquie, mais aussi un contrôle plus strict des talibans qui ne veulent pas laisser les Afghans sortir aujourd'hui.
Au tout début, ils demandaient un pourboire certes très élevé, mais il laissait quand même un petit peu les gens partir. C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Alors il y a un an déjà, vous le rappeliez, ouais. 38 millions de personnes, un point de sortie dans tout le pays, c'était l'aéroport de Kaboul. Ça s'est arrêté il y a un an. Les Afghans avaient repris le contrôle du pays en reprenant aussi le contrôle des frontières. Et c'est un accord qui a arrangé tout le monde, tous les pays voisins, qui ont dit dès le départ qu'ils ne voulaient plus accueillir de réfugiés afghans. Donc l'espace de protection avait été fermé, les frontières avaient été fermées. Et c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, on le voit dans le rapport d'Amnesty. Les conditions sont aussi de plus en plus difficiles pour atteindre l'Iran, le Pakistan, la Turquie et plus loin l'Europe. Les passeurs jouent un rôle de plus en plus important. Et dans un contexte économique où 97% de la population vit sous le seuil de pauvreté, où les Afghans n'ont plus de ressources économiques, rien que pour payer ces passeurs et pour pouvoir sortir, c'est un coût que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Et on voit aujourd'hui l'impact que ça a sur les filles et les femmes au sein des familles qui sont souvent justement cibles d'agressions sexuelles ou autres par les passeurs aussi, tout simplement.
Parce qu'il y a encore des femmes et des filles qui réussissent ou qui essayent de partir seules, puisque beaucoup d'hommes sont déjà partis avant même l'arrivée au pouvoir des talibans. Qui sont ceux, en fait, qui essayent de franchir par leurs propres moyens les frontières? Parce qu'on va parler de ceux qui bénéficient encore de rotations, de vols internationaux organisés par les ambassades, mais il y a vraiment ceux qui partent à pied ou dans des voitures, mais par leurs propres moyens. Et qui sont-ils? Qui sont-elles?
Ceux qui essaient de fuir, dans nos recherches en tout cas, on le voit très clairement, ce sont les ex-membres du gouvernement, des militaires qui sont aujourd'hui ciblés, persécutés par les talibans, des femmes, des familles qui continuent à partir et aussi des minorités ethniques et religieuses. Maintenant, il y a une vraie inégalité aussi à cet accès à cette porte de sortie. C'est les femmes qui restent laissées pour compte, les femmes qui restent derrière. On parle aujourd'hui de 2 millions de veuves en Afghanistan, mais aussi de millions de femmes dont les hommes sont partis. Ils ont dû se diviser pour que l'homme puisse partir chercher une issue ailleurs et les femmes sont restées derrière, bloquées en Afghanistan. Donc c'est surtout cette immobilité-là dont il faut aussi parler. C'est que pour la plupart des Afghans et des Afghanes, ils sont piégés aujourd'hui en Afghanistan et subissent une pression accrue. Les femmes aujourd'hui n'ont même plus le droit de se déplacer sans un chaperon, un mahram. Donc ça fait partie des décrets qu'ont qu'ont annoncé les talibans depuis août 2021. Ils n'ont pas de gouvernement, ils n'ont pas de plan de gouvernance, mais ils ont 16 décrets dont justement interdire le droit aux femmes de se déplacer. Donc elles ne peuvent légalement même plus sortir de chez elles sans être accompagnées.
Pas de plan de gouvernance et une administration très chaotique, on l'a vu dès les premiers mois. Les talibans n'étaient pas préparés à reprendre le pouvoir dans les administrations, localement, dans la fonction publique aussi. Est-ce que les talibans continuent à délivrer des passeports ? Est-ce qu'il y a des Afghans et des Afghanes qui partent légalement munis d'un passeport ?
Alors, l'accès au passeport a toujours été un problème en Afghanistan qui date d'avant les talibans. Donc, il y a toujours eu un accès aussi, un grand écart entre les hommes et les femmes sur cette question-là. Encore une fois, les femmes sont touchées par un manque d'accès à la documentation civile et à l'état civil. Mais aujourd'hui, ça s'est bien sûr empiré. Les femmes afghanes, par exemple, ont du mal à obtenir des passeports parce que souvent, ce sont leurs demandes qui sont rejetées ou qui restent en attente et sans réponse. Obtenir un passeport aujourd'hui en Afghanistan est devenu quasi impossible. Et même si vous avez un passeport, les ambassades ont fermé. Donc il y a très peu de chances d'avoir des visas pour pouvoir sortir. Donc selon Amnesty, dans le rapport d'Amnesty, il le souligne aussi, il n'y a plus de voie légale de consulat qui délivre des visas pour que les personnes puissent voyager. Sur cette question des passeports maintenant, c'est aussi l'impact des sanctions des Américains. L'impact économique fait que les talibans ne peuvent même plus se procurer les papiers nécessaires pour imprimer des passeports.
Là, vous parlez vraiment du papier, quoi.
Donc, très, très logistiquement, techniquement, aujourd'hui, c'est impossible, presque impossible pour les talibans de pouvoir délivrer des passeports.
Et quand ils le font, c'est à qui ils consentent de délivrer un passeport ?
Aujourd'hui, ils délivrent des passeports, par exemple, dans des cas vraiment d'urgence, des cas médicaux, des personnes qui ont besoin d'accéder à des soins à l'extérieur du pays, mais c'est aussi ceux qui payent. Et la corruption a toujours été un sujet important en Afghanistan. Et le reste, les passeports se monnaient entre 400 et 9000 dollars par passeport aujourd'hui. Le coût légal doit être juste 100 dollars ou 100 euros.
Donc, Baptiste Mikkelsturm.
Nassim Majidi, où sont aujourd'hui les plus grands camps de déplacés afghans ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs, il y en a qui se sont montés, formés exprès il y a un an pour accueillir celles et ceux qui fuyaient le régime taliban.
On voit une montée des camps certainement. À la frontière iranienne et pakistanaise, par exemple, les gouvernements voisins donc, ont annoncé qu'ils n'accueilleraient plus de réfugiés afghans, mais seulement temporairement dans des camps tout au long des frontières, donc sans réelle protection ou issue. Pourtant, les Afghans essaient désespérément d'intégrer, par exemple, l'Iran, parce que les enfants, les filles qui n'ont pas accès à l'école aujourd'hui en Afghanistan, essayent d'aller en Iran où elles, en tant que réfugiés, ont plus de droits que dans leur propre pays. Et il y a aussi d'autres formes de camps. On voit des nouveaux camps qui se sont érigés aussi, des camps de réinstallation. Par exemple, tous ceux à qui on a promis d'être réinstallés aux États-Unis, mais à qui on demande d'attendre dans des camps, dans des centres humanitaires, mais c'est vraiment des camps aux Émirats Arabes Unis ou ailleurs, et qui attendent depuis un an, sans réelle information ni aucune idée sur la durée du processus de réinstallation. Donc ils attendent, les Afghans sont en attente dans des camps un peu partout dans le monde. On a même entendu parler de programmes de réinstallation via la Moldavie où certains se retrouvent à Kampala en Ouganda. Ils sont éparpillés aujourd'hui dans l'attente d'une réponse positive des Américains. Et là, la guerre en Ukraine aussi a un peu détourné l'attention et fait que cette attente sera encore plus longue puisque les Afghans ne sont plus vraiment prioritaires sur ces listes et restent dans l'attente d'arriver à accéder à l'Europe ou aux États-Unis.
Alors, l'Ouganda avec le Rwanda, ce sont ces pays qui ont accepté de collaborer avec l'administration américaine en accueillant les Afghans de façon transitoire. Et d'ailleurs, l'Ouganda, on lui a aussi reproché de ne pas s'être occupé de ses propres ressortissants ougandais qui vivent et qui travaillent en Afghanistan. On a vu, Nassim Majidi aussi, au Qatar, ces grands lotissements en périphérie de Doha, des résidences à l'origine prévues pour la Coupe du Monde de foot, financées par le Qatar qui continue à vouloir jouer le rôle d'intermédiaire. Qui encore il y a un an finançait les cours d'anglais, les couches pour bébés, les séances de psy même pour ceux qui le souhaitaient. Là on est vraiment dans les élites libérales de Kaboul et d'Afghanistan. Est-ce que ces camps, enfin ces résidences existent encore ? Le mondial arrive, est-ce que le Qatar a commencé à chasser lui aussi les exilés afghans ?
Non, pour l'instant, les Afghans restent en attente. Ils n'ont pas d'informations. Personne ne leur a dit de rentrer chez eux ou de rester. Mais c'est eux qui maintenant sont obligés, pour certains, de rentrer en Afghanistan. Pourquoi ? Parce que pour la plupart, ils doivent payer eux-mêmes les frais de cette attente. Les frais de logement, les frais alimentaires. Et ils n'ont plus d'argent. Donc après un an, on a vu cette année, des journalistes ont souligné des retours quelque part forcé aussi, pas seulement de la Turquie, de l'Iran et du Pakistan, comme le souligne le rapport d'Amnesty, mais aussi du Qatar et d'autres pays, parce qu'ils n'ont plus d'autre choix que de rentrer chez eux et de se cacher une fois en Afghanistan.
Même après avoir obtenu le statut de demandeur d'asile, ce qui n'est déjà pas donné à tout le monde, ce statut de demandeur d'asile, lui aussi, a été attribué au cas par cas. À qui, en général, dans les pays qui les ont accueillis, ces réfugiés, ou qui les ont laissés passer?
Alors, ceux dont on parle ici, qui sont dans ces camps, qui se retrouvent dans ces camps, ont eu des droits temporaires, n'ont pas eu vraiment des droits en tant que réfugiés, et pourtant, la Convention de Genève doit les protéger, et on voit ici vraiment tout un manquement au droit international. On le voit aussi dans ces retours qui sont forcés, ces expulsions que documente Amnesty International, qui ne doivent pas avoir lieu, parce qu'en fait, ces personnes-là sont victimes, on le voit souvent, de persécutions une fois sur place. Toutes nos recherches montrent que au retour, ce sont les retours, ceux qui rentrent sont persécutés, il y a des fouilles chez eux, leurs documents sont détruits, on voit l'augmentation des meurtres arbitraires, de la torture, et ça touche surtout, vous me demandiez quel profil, les ex-employés gouvernementaux, leurs familles, et toute personne qui en fait a un lien avec l'étranger, qui représente une menace pour la pensée des talibans.
Et qui ont dû donc, comme vous le disiez, rentrer chez eux, rentrer en Afghanistan. Sur ceux qui ont obtenu quand même néanmoins le statut de réfugié, est-ce que, donc accordé au cas par cas, est-ce que c'est toujours comme ça dans le droit humanitaire? On attribue le statut de réfugié qu'à des personnes qui appartiennent à des groupes sociaux définis, ou est-ce qu'il arrive, Nassim Majidi, qu'en fonction de la situation qui les pousse à l'exil, on reconnaît le statut à tous ceux qui fuient cette situation?
Oui, donc la Convention de Genève, donc de 1951 et son protocole de 67, protège toute personne qui est victime de persécution ou qui appartient à un groupe social qui est persécuté. Et aujourd'hui, nous, ça fait un an que l'on dit et que l'on souligne que, par exemple, les femmes et les filles en Afghanistan font partie d'un groupe social qui est persécuté, mais aussi des certaines ethnies minoritaires et autres.
Les Hazaras.
Voilà, par exemple. Donc, la Convention de Genève s'applique et elle peut s'appliquer justement soit au cas par cas, sur des demandes spécifiques individuelles, soit à un groupe. Et ce sur quoi nous militons, Amnesty et d'autres organisations aussi, c'est de justement reconnaître le droit pour les Afghans et les Afghanes à une protection qu'on appelle prima facie, donc de groupe pour les Afghans sous la Convention de Genève. Maintenant, le seul problème, c'est que pour avoir accès à cette protection internationale, il faut pouvoir quitter le pays. Et aujourd'hui, les Afghans n'arrivent pas à quitter le pays. Donc, et encore une fois, il y a un silence de la part des Nations Unies, c'est-à-dire... ils nous disent les Afghans ne sont pas en nombre assez important dans les pays voisins ou ailleurs, et ils ne parlent pas de cette protection prima facie qui a été utilisée par le passé pour les Syriens, pour les Somaliens, pour d'autres populations, et qui doit aujourd'hui être mise en place pour les Afghans.
Quand le Kenya a accueilli un afflux massif de réfugiés somaliens, par exemple, là, l'ONU a accordé ce statut prima facie. Est-ce qu'il existe encore des procédures de réinstallation orchestrées, par exemple, en France, par l'OFPRA, c'est-à-dire de ces familles à qui on trouve une maison dans un village ou dans une ville, une place à l'école pour les enfants? Où sont les familles qui ont réussi à s'enraciner quelque part ailleurs?
Oui, alors déjà sur ces questions de solutions administratives. Donc aujourd'hui, les évacuations de l'année dernière ont pris fin, mais les évacuations continuent. Heureusement que la France continue à jouer son rôle. Il y a une cellule de crise aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères qui continue à traiter les demandes. Les ambassades en Iran et au Pakistan, les ambassades de France, le consulat continue à jouer un rôle pour aider à l'évacuation des familles. Donc il faut continuer ces évacuations et il faut que cette porte de sortie reste. L'Allemagne aussi joue un rôle important à ce sujet-là. Mais voilà, maintenant, ce qu'il faut penser, qu'il faut repenser, c'est l'accueil une fois sur place. Qu'est-ce qui advient de ces familles? Comment sont-elles prises en charge? Et souvent, il y a encore un flou administratif qui est très pesant pour ces familles qui cherchent à sortir. Et celles qui arrivent à sortir par ces biais-là sont les plus privilégiés, ceux qui ont un capital social et financier qui leur permettent de sortir, et c'est pas souvent et seulement les plus vulnérables.
Merci beaucoup Nassim Majidi d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et directrice de Samuel Hall, un centre de recherche basé à Kaboul qui forme des chercheurs afghans notamment. Merci beaucoup.
Merci, les enjeux c'est fini pour aujourd'hui, mais pas d'anxiétés inutiles. Il y aura bien des enjeux territoriaux demain, à 6h10, des enjeux des réseaux sociaux, à 6h25 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h40.
France Culture. L'esprit d'ouverture.